BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, avec Vincent Touraine.
Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Intégral Bourse, nous sommes en chambre jusqu'à 18h pour suivre cette dernière séance de la semaine, dernière séance du mois de juillet également sur les marchés financiers. On est dans le vert. Pas franchement, mais on est dans le vert. Alors, on espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la séance, puisqu'on a pas mal hésité jusqu'à maintenant. Après avoir atteint 4900, repassé le cap des 4900 points, on a hésité. Et là, il se trouve que on gagne un petit 0,17% sur le CAC 40 à 4861. Que donnent les autres places européennes pour voir comment se situe le marché français par rapport aux autres places européennes. Il est un petit peu en dessous de la moyenne. Hein. L'Eurostoxx 50 gagne 0,53%. On se reprend davantage sur le DAX, plus 0,75%. Et le MIP 30 italien s'adjuge 1,16%. On profite des résultats solides des GAFA américaines. Toutes dépassent les attentes. Véritablement, elles ont profité, elles, de la crise du coronavirus. Et on essaie de relativiser un petit peu ces très mauvais chiffres conjoncturels, ces récessions au deuxième trimestre aux quatre coins de l'Europe, dont moins 13,8% pour la France, du jamais vu de mémoire d'économiste. On regarde ce qui se passe au sein du CAC 40, donc il progresse d'un petit 0,15% à présent, 0,16%. Certains résultats du jour sont porteurs, notamment ceux d'Engie. Engie qui est la plus forte hausse du CAC 40, plus 7% à 42%. Revue stratégique d'une partie de ses activités de service chez Engie et nouveau programme de cession, ainsi que accélération de ses investissements dans les renouvelables. Cela plaît au marché. Capgemini continue sur sa lancée, plus 3,1%. On a Carrefour aussi qui est très bien orienté, plus 2,7%. Les banques, BNP Paribas qui publiait aujourd'hui, qui ouvre le bal des publications des bancaires, avec des résultats en légère baisse mais supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Forte hausse de ses revenus de marché, des revenus de ses activités de marché. Donc tout cela est porteur, plus 1,9. Crédit Agricole ne gagne que 0,6, mais Natixis s'adjuge 3,3% et Société Générale perd 0,6%. On est très mitigé sur les bancaires aujourd'hui. Que signaler de plus? Que l'on souffre toujours sur Renault, à l'autre extrémité du classement, les plus fortes baisses. Renault, moins 5,61%. Que donne le secteur automobile? À l'unisson, les équipementiers Faurecia, Michelin, respectivement, moins 1,4%, moins 1,3%. Peugeot, sous pression aussi du fait de Renault, qui perd 1,2%. Et puis pour ce qui est du SBF 120, c'est Lagardère hein, qui s'effondre complètement, moins 13,8%. Perte nette semestrielle de près de 500 millions d'euros pour Lagardère, son enseigne Relay. Vous savez, hein, les kiosques Relay que l'on trouve dans les aéroports, dans les gares, a vraiment souffert du confinement et la reprise d'activité dans ce registre est très lente et très difficile. L'euro-dollar, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On se replie un petit peu. On est à 1,1839 sur l'euro dollar. On va regarder aussi ce que fait le pétrole, puisqu'on avait un décrochage important sur le pétrole hier. Il reprend un tout petit peu de poil de la bête aujourd'hui, le pétrole, le baril de Brent à 43,46, plus 0,37%. Un mot de l'or. L'or qui, aux dernières nouvelles, progresse de 0,64% et se rapproche du cap des 2000 $ l'once, 1974 $ l'once d'or.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Allez, on va dans le détail de la séance à la Bourse de Paris, voir aussi tous les grands mouvements au sein des marchés en cette fin de semaine, cette fin du mois de juillet. Vincent Gann est en ligne avec nous, analyste technique senior chez TradingView France. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Fin de semaine assez hésitante sur le CAC 40. On est partagé hein, entre les résultats des GAFA, l'analyse du détail des publications de PIB, qui sont catastrophiques, bien entendu, aux quatre coins de l'Europe.
Oui, il y a un certain nombre de choses à retenir de la semaine. Alors, bon, la séance, là, elle n'est pas significative. Déjà, si on fait un bilan sur la semaine, c'est une semaine négative sur le marché action, à la fois en Europe et aux États-Unis. En Europe, ça dépend des indices, mais on perd autour de 4%. seulement 2% sur le marché action américain. La différence, vous l'évoquez à l'instant, c'est la poursuite de la remontée du taux de change de l'euro. Donc quand même globalement une semaine négative, et puis ça fait même une dizaine de séances que le CAC 40 baisse. On vient des 5200 points vers le 20 juillet, donc on a déjà perdu 7-8%. Alors sur l'ensemble de la semaine, est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux qui justifient cette baisse? Effectivement oui, c'était une semaine un peu particulière. Bon, vous la vivez tous les jours en direct, à la fois ces chiffres historiques de contraction du PIB, du produit intérieur brut, alors au second trimestre, annualisé. Alors moi je retiens les moins 32% du PIB aux États-Unis, mais bon, on a les moins 13% en France. Après voilà, c'était la période du grand confinement, l'économie était à l'arrêt. Elle ne pouvait pas faire, elle était forcée de produire ce genre de chiffres. Alors maintenant, après ce deuxième trimestre catastrophique, avril, mai, juin, il va falloir un rebond significatif de l'activité au troisième trimestre. Bon, forcément, les chiffres du T3 en rythme trimestriel vont montrer un rebond, mais c'est quand même inquiétant sur l'ensemble de la semaine. On regarde par exemple du côté des indicateurs de la consommation. Donc là, ça permet de se projeter comment le consommateur voit les choses. Et les indicateurs de sentiment sont vraiment pas bons aux États-Unis, en Europe, et la consommation, c'est les trois quarts de la croissance. Donc compliqué pour la croissance économique. Et puis cette semaine, les résultats trimestriels, le CAC 40, il me semble que si on fait la somme des pertes cumulées des entreprises du CAC 40 au second trimestre, on dépasse là les 20 milliards d'euros. On a eu en début de semaine une déception sur notre leader à nous, LVMH, hein, qui est la première capitalisation boursière du CAC, alors qu'on comptait beaucoup sur le luxe. Même le luxe a déçu, donc LVMH, poids lourd du CAC, ça a pesé sur la tendance. Et voilà donc qui nous ramène le CAC 40 là dans le bas du range. Hein. Ça fait un mois qu'il évolue entre 4008 et 5002. Et donc aujourd'hui, la toute petite hausse, c'est une tentative de se stabiliser sur ce support sur lequel on est revenu de manière volatile avec toutes ces mauvaises nouvelles fondamentales.
Bon, le deuxième trimestre, j'en reviens à la conjoncture, hein, c'est passé. Maintenant, on va se concentrer sur la suite. Le fait que la confiance soit toujours aussi fragile, la confiance du consommateur soit toujours aussi fragile, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, c'est le principal sujet d'inquiétude. Ça veut dire que les gens sont pas prêts à se remettre à dépenser. Même si on a vu qu'en juin, quand même, ça reprenait un petit peu la consommation. Mais bon, oui, est-ce que ça peut tenir?
D'un point de vue conjoncturel, le deuxième trimestre, c'est le passé. Maintenant, on est au troisième trimestre et on se projette sur la suite. Effectivement, il faut maintenant un rebond énorme de l'activité pour effacer les stigmates du deuxième trimestre. C'est-à-dire moins 30% de PIB, c'est pas rien, moins 13 en France. Donc, il va falloir qu'on s'appuie sur un fort rebond. Alors, on a besoin, bien sûr, du consommateur. L'hélicoptère monnaie tourne à plein. Beaucoup de citoyens aux États-Unis reçoivent des chèques. Bon, mais lorsqu'on regarde les dépenses de consommation, bon, il y a des taux d'épargne qui restent très élevés, donc pour l'instant, cet argent reçu par le consommateur, il va pas le dépenser comme ça à tout va. Après, les comportements vont peut-être changer, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Alors maintenant, du côté des entreprises, moi, ce qui m'a frappé, au-delà des pertes annoncées au T2, qui était à peu près logique, ce qui m'a frappé dans les résultats trimestriels cette semaine, c'est au sein du CAC 40, beaucoup, au moins la moitié des publications des entreprises qui le disent clairement qu'elles ne font pas de prévision pour la suite. Elles ne peuvent pas se projeter pour 2020, donc ça reste très incertain. Alors qu'en général, les entreprises font toujours cet exercice de se projeter. Et grosso modo, elles espèrent que 2021 verra enfin le gros rebond. Donc effectivement, même si on attend un rebond important d'activité au T3, bon, on a bien compris que à la fois du côté du consommateur et des entreprises, donc de l'investissement, c'est le flou artistique lorsqu'on se projette.
Il y a eu aussi la réunion de la Fed cette semaine aux États-Unis. Une Fed toujours aussi accommodante. On n'en sait pas beaucoup plus sur les intentions de Jerome Powell. Il faudra attendre quoi? Jackson Hole, l'automne prochain.
Il faut quand même trouver des éléments positifs, hein, sur la semaine. Il y en a quand même. Effectivement, bon, cette semaine, on avait une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, donc la Banque centrale américaine, donc qui confirme qu'elle est au chevet de l'économie jusqu'au retour du niveau d'avant-crise. Donc c'est sans limite, hein, les banques centrales qui rachètent des obligations d'entreprise, de la dette titrisée, donc qui soutient les entreprises. Bon, ça, au moins, elles ne vont pas nous abandonner tout de suite. Bon, ça, on s'en doutait, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis non, ce qui est aussi frappant sur la semaine, bah vous en parliez un instant, parce que c'est le sujet du jour, c'est il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde aux économies réelles, il y a les entreprises classiques, tout secteur confondu, et à côté de ça, il y a les entreprises technologiques, celles qui ont bénéficié de l'ère, qui bénéficient de l'ère du Covid, les entreprises dites stay at home, et là, qui font des bénéfices records. D'ailleurs, il me semble que là, à Wall Street, tout à l'heure, on attend une ouverture en forte hausse sur des records historiques d'Apple, Amazon, etc.
Donc, mais c'est surtout Apple, Amazon hein, qui ont délivré.
Il y a deux mondes boursiers.
Deux mondes boursiers. Donc, on a parlé des GAFA, de la Fed. On n'a toujours pas d'avancée sur les négociations au Congrès, là, sur le nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Ça commence à devenir inquiétant parce que je crois que ce soir, les chômeurs ne recevront plus leurs 600 dollars par semaine. Donc, le temps
oui,
presse.
Alors, c'est vrai que c'est ce qui avait permis un rebond des ventes au détail aux États-Unis. Là, sur les deux derniers mois, bon, je pense qu'ils vont trouver un accord in fine à la dernière minute. Ils font souvent ça, hein, c'est politique. Mais là, si on retire ces 600 dollars par semaine au consommateur américain, c'est une catastrophe. Parce que prenez par exemple l'exemple de l'hélicoptère monnaie aux États-Unis, le chèque que le gouvernement fédéral a envoyé à une grande partie des citoyens américains, c'est un chèque de 1200 dollars. Donc, ça ne viendra pas remplacer ces 600 dollars par semaine. J'ai quand même bon espoir qu'il le prolonge, parce que si ce n'est pas le cas, là, le début du mois d'août boursier sera sérieusement compliqué.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, retenir d'autre de cette semaine? L'or, je le disais tout à l'heure, hein, l'or
oui,
continue
alors,
sur sa lancée.
On
y va, là, aux 2000 dollars l'once.
C'est une semaine qui voit en dollars les nouveaux records historiques de l'or, qui avaient été atteints en 2011 à 1920 dollars, qui sont maintenant dépassés. Donc, c'est la poursuite d'une tendance haussière qui existe depuis plusieurs années. Et puis, donc, par vaste communicant, les capitaux qui se dirigent comme ça vers des actifs avec de belles performances, ça s'est déversé un peu sur le cours de l'argent, alors l'argent métal, qui est en train de rattraper l'or, il y a du potentiel, mais pas seulement, des actifs cryptographiques aussi, bref, la finance, les capitaux disponibles sur les marchés financiers cherchent à s'investir sur toute une palette d'actifs. Donc oui, tout à fait, il y a des performances positives, haussières, mais là qu'on ne retrouve pas en tout cas depuis 10 jours sur le marché action.
Ouais, vous parlez des cryptos, le Bitcoin hein, qui a renoué avec les 10 000 dollars, qui a même passé le cap des 11 000. C'est le signe de quoi ça?
Oui, voilà, c'est un signal qui a été donné, un signal technique qui a été donné en début de semaine. Ça faisait deux mois qu'on l'attendait, que le marché pouvait le donner, mais il ne le donnait pas. Et puis finalement, les capitaux, ils sont venus, et donc le cours du Bitcoin a donné un signal qui lui permet, la cible maintenant, c'est de revenir chercher les sommets de l'année 2019, donc 13, 14 000 dollars. Oui, c'est un des mouvements de marché importants de la semaine.
Et qu'est-ce qu'on suivra la semaine prochaine? J'imagine la suite des négociations au Congrès. Le Sénat, je crois, qui part en vacances en fin de semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine, me semble-t-il. Donc, on pourrait avoir des développements. La campagne, la présidentielle américaine avec les tweets de Trump qui peuvent surgir à n'importe quel moment.
Déjà, c'était vraiment là pour moi. On vient de terminer la semaine la plus importante. Hein, la quantité d'entreprises qui a publié.
Avec les résultats.
Et les salles de marché, la première quinzaine d'août, elles se vident. Ce qui n'empêche pas d'avoir des mouvements importants. Donc, la semaine prochaine, on aura encore quelques résultats d'entreprise, même si ce qui nous intéressait, grosso modo, tout est à peu près tombé cette semaine. Et puis non, n'oublions quand même pas, comme chaque mois, le rapport sur le marché du travail américain qui tombe le premier vendredi de chaque mois. Donc, la semaine prochaine, c'est bien ça, ce sera le premier vendredi du mois d'août. Donc, ce sera la plus importante à suivre la semaine prochaine pour Wall Street.
Très bien. Vincent Gann, merci encore une fois d'avoir été avec nous et on se retrouve pour la clôture tout à l'heure à 17h35 sur BFM Business dans l'immédiat. Il est 15h et bientôt 14 minutes.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Plongeon historique de la croissance en Europe sur fond de coronavirus, hein, moins 13,8 au T2 en France, après moins 10,1 en Allemagne. On a eu l'Italie, l'Espagne aussi aujourd'hui, moins 12,4, moins 18,5. On parle de tout cela avec Frédéric Ducrozet qui est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Économiste chez Pictet Wealth Management. On commence avec la France, moins 13,8 au deuxième trimestre. Sévère, mais un peu moins que prévu. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde un petit peu dans le détail de cette publication du PIB?
Je dirais que d'abord, il faut souligner le travail, on le fait souvent sur votre antenne, mais remarquable des instituts statistiques français, de la Banque de France, des prévisionnistes, dans un monde quasiment impossible à mesurer. La première chose qu'il faut dire avec tous ces chiffres, c'est qu'ils peuvent être révisés très fortement à l'avenir, qu'il faut rester très humble par rapport à ce type de mesures. On ne sait pas ce qui se passe exactement au niveau du consommateur, au niveau des entreprises, au niveau des administrations publiques. Ça, c'est un chiffre, par exemple, qui me paraît très surprenant. La consommation publique, les dépenses publiques en France ont reculé selon le rapport de l'INSEE. C'est peut-être pas le cas, peut-être qu'on reverra cette mesure avec de nouvelles prévisions. Mais en tout cas, la France, pour moi, c'est vraiment une figure de bon élève, peut-être un des meilleurs élèves, en tout cas en Europe, pour mesurer ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie. Et le fait est que la contraction du PIB a été certes historique, mais un tout petit peu moins catastrophique que prévu, ce que la Banque de France, d'ailleurs, entre-temps, avait commencé à percevoir. Le reste, c'est effectivement, pour les livres d'histoire, une chute absolument sans précédent de la consommation, de l'investissement des entreprises, des exportations également, mais ce n'est pas une surprise, compte tenu des conditions de confinement. Le contraire aurait été surprenant. La vraie question, c'est ce qui se passe après, c'est combien d'activités, de consommation, d'investissement, d'embauche est, entre guillemets, perdu pour toujours ou pour très longtemps. C'est la vraie question et c'est pas quelque chose qu'on peut regarder dans le miroir de ces chiffres passés.
En tout cas, au troisième trimestre, mécaniquement, ça va partir très fort.
Ça va repartir très fort. C'est là que ça commence à devenir encore plus compliqué pour les prévisionnistes et les économistes, parce que traditionnellement, dans des récessions déjà sévères comme celle de 2008-2009, on a toujours tendance à sous-estimer le rebond également. Et donc on pourrait être surpris par des chiffres très bons. Faut rappeler deux choses. D'abord, quand vous partez d'un niveau donné, disons 100 pour le PIB, que vous baissez de 14%, et si jamais on rebondissait de 14%, ça ne suffirait pas pour revenir au niveau initial. Donc il y a une question de niveau, et en termes d'économistes, d'écart de production, qui malheureusement va se creuser et avoir des conséquences pour l'embauche, l'investissement et l'inflation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il n'y a pas que le troisième trimestre, parce qu'on a encore des comportements probablement très prudents des consommateurs notamment. On l'a vu dans leurs intentions d'épargne qui sont très élevées dans l'enquête de l'INSEE cette semaine. On a également des entreprises qui vont forcément décaler leur plan d'investissement ou d'embauche. Donc c'est 2021 déjà. Et d'ailleurs, dans les marchés aujourd'hui, quand vous avez des nouvelles qui font vraiment bouger les marchés financiers, c'est essentiellement des nouvelles qui concernent l'année prochaine. Est-ce qu'on peut estimer et espérer une reprise qui vraiment reprend en vigueur, qui s'installe vraiment et qui permet ensuite de faire baisser le taux de chômage, pour le dire très simplement, durablement? Et ça, c'est une vraie question, encore une fois, malheureusement, qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas répondre avec le chiffre du deuxième trimestre.
En tout cas, si on regarde l'Europe, on voit que les pays les plus touchés par le coronavirus sont ceux qui accusent les contractions de PIB les plus importantes.
Oui, tout à fait. Et c'est là, à mon avis, le point essentiel quand on parle de 2021 et au-delà, et quand on parle même de, j'allais dire, la survie et l'avenir de l'Europe. Ce qui s'est passé en Europe, c'est quelque chose de, évidemment, toujours, comme toujours, très différent des États-Unis. La réponse budgétaire et la réponse communautaire, j'allais dire, de l'institution européenne s'est fait attendre. Elle a accouché dans la douleur, mais elle a accouché d'un plan qui, pour moi, est très prometteur. Et quand vous avez effectivement, comme le répète la BCE, la Banque Centrale Européenne, depuis le mois de mars, un choc qui touche initialement tout le monde à peu près de la même manière, mais ensuite qui devient, qui entraîne une reprise très inégalitaire, très fragmentée, ne serait-ce que parce que l'Espagne, par exemple, repose plus sur le tourisme, ou l'Italie plus sur d'autres secteurs, et que ces pays sont vulnérables économiquement, financièrement, c'est là que l'Europe doit répondre, avec des transferts budgétaires, avec une intégration budgétaire. Et je pense que vraiment, si quelque part les chiffres du deuxième trimestre peuvent servir à quelque chose, c'est vraiment sceller cette idée au sein notamment des pays de l'Europe du Nord, qui ont été plus réticents à apporter leur soutien, que ce plan européen, ce plan de reprise, cet accord qui pour l'instant doit encore être mis en œuvre par tous les parlements nationaux et européens, il faut absolument qu'il soit à la hauteur de son ambition initiale pour permettre à cette reprise de se prolonger, en Europe beaucoup plus qu'ailleurs.
Ouais, alors en Espagne, moins 18,5 on rappelle au deuxième trimestre et moins 12,4 pour l'Italie. On revient sur la France avec l'inflation. Là, on a eu des chiffres de l'inflation aussi ce matin, des chiffres de l'inflation qui s'accélèrent en juillet, plus 0,8%. C'est une tendance qui pourrait être durable?
Pas du tout. Et c'est aussi un sujet très important. Dans ces grands chiffres historiques dont on parle aujourd'hui, ça peut être un peu noyé dans le flot des informations, mais c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, un chiffre auquel le marché ne réagit pas, et à juste titre. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord du bruit énormément, et encore plus dans la mesure des prix. Vous savez que les gens de l'INSEE, en l'occurrence, d'Eurostat, de tous les pays, vont également parfois mesurer vraiment les prix localement, hein, sur le terrain, et que c'est pas possible dans une période comme celle que nous vivons. Donc il y a des estimations qui sont très très imparfaites, l'INSEE là aussi le précise. Vous avez par-dessus ça, en Italie, des dates de soldes qui ont été décalées et qui font que vous avez eu une énorme volatilité dans un certain nombre de prix, notamment des vêtements. Et donc ce bruit que vous avez, ce fort rebond sur ce qu'on appelle les biens du cœur, core goods de consommation, est complètement à ignorer, selon moi. La vraie tendance, on la voit déjà dans les services, dans les vraies tendances de fond de l'inflation, elle est au ralentissement, pour pas dire à la désinflation très prononcée. Et en plus, en Allemagne, vous avez une baisse de TVA, temporaire, certes, mais de 3 points quand même, qui fait qu'à mon avis, le risque qu'on va avoir dans les mois qui viennent, pour la BCE notamment, c'est le risque d'une désinflation très forte, une baisse très rapide du noyau dur de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant en Europe, parce que on lutte contre cette inflation trop faible depuis maintenant plus de 10 ans, et qui peut, à mon avis, amener la Banque Centrale Européenne à en remettre une couche, peut-être pas dès septembre, mais en tout cas avant la fin de l'année.
D'accord, donc conséquence de cette inflation qui pourrait finalement décélérer, ce surcroît d'inflation là, indiqué ce matin au mois de juillet de 0,8, qui pourrait décélérer. Le rebond, si on peut parler de rebond, est très timide sur les marchés d'actions aujourd'hui. On aurait pu penser qu'ils auraient été libérés par les publications des GAFA, qui sont toujours aussi impressionnantes, hein. Les 4 dépassent les attentes. Pour autant, on hésite beaucoup. C'est quoi ? C'est justement cette incertitude sur la conjoncture qui freine les marchés d'actions, selon vous ?
Je serais un petit peu prudent avant de tirer des conclusions à la fin du mois de juillet dans des conditions de marché qui malgré tout sont moins liquides et effectivement prônes à des mouvements un peu plus violents. Ça allait peut-être plus s'emballer sur la surperformance très marquée de l'Europe il y a quelques semaines. Là maintenant on a une sous-performance également assez significative. On sait qu'en termes de composition des indices, notamment effectivement les GAFA, les grandes entreprises qui reposent sur des projections de croissance très fortes, et notamment dans la tech, c'est pas le point fort de l'Europe, hein. En termes relatifs, évidemment, les États-Unis sont devant. L'indice Nasdaq continue d'être en tête de tous les indices boursiers. Je serais, en tout cas au minimum, vous avez raison, il n'y a pas de changement de leadership, il n'y a pas de changement de dynamique dans les marchés, il y a une fragilité clairement intrinsèque au marché européen. Mais par ailleurs, vous voyez l'euro, la devise, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui à mon avis là aussi, c'est la faiblesse du dollar certes, mais si on avait vraiment une crainte sur l'Europe, l'euro ne serait pas à ce niveau-là. Vous avez un certain nombre de réajustements dans le marché fin juillet qui... On verra, mais peut-être ne doivent pas être extrapolés. Je pense que là aussi, les prochaines étapes sont connues. Le mois d'août, on l'espère, pourra être un peu plus calme. Ensuite, on se dirige vers les élections américaines, on se dirige vers la mise en œuvre du plan européen, vers un certain nombre de mesures de politique économique qui doivent être entérinées. Bien sûr, d'abord, le stimulus budgétaire aux États-Unis qui est toujours en suspens. Donc, je pense qu'il y a un peu d'attentisme plutôt qu'un changement de direction pour le moment dans les marchés boursiers.
Et pour ce qui est de l'euro-dollar, difficile de parler d'une direction, d'une poursuite de l'appréciation de l'euro sur le même rythme que ces dernières semaines. Pas évident que ça se poursuive.
Exactement. Mmh. C'est un petit peu rapide. En termes historiques, c'est assez rare de voir un rebond aussi fort de la monnaie unique contre le dollar. Alors, il se trouve que le dollar est faible contre quand même beaucoup d'autres devises également. L'euro, en termes effectifs, comme on dit, contre un panier de devises, est en train de se renforcer, ce qui là aussi est une très mauvaise nouvelle d'ailleurs, et probablement une des raisons des sous-performances des marchés européens. Une nouvelle mauvaise nouvelle pour la Banque Centrale Européenne aussi, pour l'inflation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Il doit y avoir des forces de rappel à un moment, et probablement que là, autour des 1,19, on l'a vu aujourd'hui, l'euro-dollar a tendance à corriger un petit peu. Pour aller au-delà de ça, et c'est tout à fait envisageable hein, pour l'année prochaine, encore une fois, il faut vraiment un renversement, un vrai changement dans les différentiels de croissance, d'inflation, de taux d'intérêt en faveur de l'Europe. Et là, pour le coup, on n'y est pas encore.
Très bien, bah merci beaucoup pour toutes ces explications. Frédéric Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
On retrouve notre série La France qui résiste, aujourd'hui consacrée à la marque Damann Frères, marque de thé fortement touchée par la crise, d'autant plus qu'elle est liée à l'Asie pour son approvisionnement en thé donc. Mais Damann Frères a pu sauver les meubles pendant le confinement et travaille activement à sa relance. Pauline Tadevin.
La réouverture des hôtels-restaurants et la perspective d'une reprise du tourisme sont un soulagement pour Damann Frères, présent dans une soixantaine de pays. La célèbre marque de thé qui affichait une croissance à deux chiffres avant la crise a vu son chiffre d'affaires fondre de 70%, explique Erika Lenohan, présidente de Damann Frères.
Du jour au lendemain, toutes les commandes qui étaient faites par nos clients des cafés, hôtels, restaurants se sont arrêtées d'un coup. Toutes les commandes à l'export ont disparu pratiquement. Tous les clients qui étaient revendeurs, les petites épiceries, les boutiques ont dû fermer également. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé pratiquement avec très, très peu de commandes.
L'international est d'autant plus fondamental pour la marque, bien sûr, qu'elle importe sa matière première. Et pour 84%, cette matière première vient d'Asie.
Quand la crise a commencé dans ces pays-là, nous nous sommes posé la question des importations. Effectivement, on s'est demandé si nous aurions de la matière première. Alors, chez Damann Frères, nous avons une spécificité, et c'est ce qui nous a protégés, c'est que nous couvrons tous les métiers des marchands de thé. Nous avons dans l'entreprise des experts qui achètent directement dans les pays producteurs la matière première. Et lorsqu'une culture nous intéresse, nous l'achetons et nous la commandons d'avance et nous la stockons à Dreux. Donc, nous avions un stock de matières premières suffisant pour passer la crise. Mais nous nous étions déjà projetés sur les années futures en nous demandant voilà, ce qui arriverait si jamais toute la Chine ou tout le Japon ou toute l'Inde s'arrêtait d'un coup et ne pouvait pas récolter les prochaines récoltes de thé. Et donc, oui, il y a une épée de Damoclès qui sera en permanence sur nos épaules.
Grâce à ses achats en direct et au maintien de l'activité sur le site de Dreux, Damann Frères a donc fait d'importants stocks de thé pour pouvoir tenir plusieurs mois. La société s'est concentrée sur les ventes internet qui ont été multipliées par deux et sur la conception de nouveaux produits pour être prêts pour le déconfinement. La maison mère italienne Illy a poussé en ce sens.
Le déconfinement se passe au printemps-été, donc dans une période plutôt chaude, et du coup, ils nous ont encouragés à continuer à développer des produits adaptés à la période estivale. Donc, nous avons, par exemple, travaillé sur les thés glacés. Nous avons à peu près 7 références de thés glacés que vous pouvez retrouver dans les boutiques.
La fin d'année aussi, surtout, sera cruciale pour Damann Frères, ses 192 salariés et ses 20 boutiques. Erika Lenohan insiste sur ce point précis. C'est la période la plus importante pour le chiffre d'affaires de la société.
Il ne faut pas qu'il y ait de grève de transport, il ne faut pas qu'il y ait de manifestations, il ne faut pas que les centres-villes soient bloqués. Il faut que nous ayons cette année, enfin, une activité normale en fin d'année pour pouvoir espérer récupérer légèrement sur les ventes. Parce qu'on ne peut pas supporter une autre crise en fin d'année, ça ne va pas être possible.
Voilà, France qui résiste, consacrée aujourd'hui à la marque de thé Damann Frères. C'est un reportage de Pauline Tadevin. Voilà, BFM Business, 15h passées de 28 minutes. L'ouverture approche à grands pas à Wall Street. On fait une courte pause et on se retrouve justement pour les premiers échanges à New York. À tout de suite.
Wall Street, la cloche en direct sur BFM Business.
9h30 à New York, 15h30 à Paris, tout juste l'heure de l'ouverture à New York. Très attendu, encore plus attendu cette ouverture que ces jours précédents, puisque depuis hier soir, les GAFA ont publié leurs résultats. Tous ces GAFA dépassent les attentes et très largement, qu'il s'agisse d'Alphabet, donc Google, d'Amazon, de Facebook ou d'Apple. C'est d'ailleurs encore plus impressionnant pour Apple et Amazon, semble-t-il. Donc on attend une nette progression au moins de ces quatre-là, qui étaient déjà très bien orientés hors séance, et ce qui devrait permettre notamment aux indices américains, en particulier au Nasdaq, de bien commencer la séance. D'ores et déjà, l'ouverture est positive positive sur le Dow Jones avec une progression de 0,19% à 26 354 et il semble que ce soit le cas surtout aussi pour le Nasdaq. On aura les chiffres à vous donner un petit peu plus tard, mais bien entendu l'indice riche en valeurs technologiques profite à plein de ces résultats toujours aussi impressionnants des GAFA qui non seulement ne connaissent pas la crise mais en profitent. Le Nasdaq plus 1,37% et le S&P, l'indice large de la bourse de New York, plus 0,48%. On regarde ce que font les places européennes qui progressent depuis ce matin, mais faiblement dans le cas de Paris. En Europe, on gagne 0,68% en moyenne, l'Eurostox 50. Et on voit qu'il y a d'importantes différences quand même selon que l'on regarde Paris, Francfort ou encore Milan. La plus forte hausse, c'est Milan, plus 1,32. Francfort gagne 0,92 et on progresse de 0,35 à Paris. On est un petit peu partagé entre profiter des résultats des GAFA et puis l'inquiétude sur la conjoncture après les plongeons des PIB au deuxième trimestre qui ont été publiés aux quatre coins de l'Europe, dont le PIB français qui se contracte de 13,8%. On regarde ce que ça donne dans le détail du CAC 40 puisqu'on a eu des résultats aujourd'hui encore. La saison se poursuit. C'est Engie qui est en tête du CAC 40, plus 6,4% pour l'action Engie. Revue stratégique chez Engie d'une partie de ses activités de services, nouveau programme de cession et accélération de ses investissements dans les renouvelables. Ça plaît au marché. Capgemini continue sur sa lancée de ces derniers jours, plus 3,6. Carrefour est bien orienté aussi, plus 2,9%. On peut citer Vivendi, plus 2,4%. Ou encore Worldline, plus 2,3%. À l'autre extrémité du classement. Alors ça, ce sont les valeurs du SBF 120. DBV Technologies, plus 12. Et Genfit, plus 10 dans la biotech. On regarde les plus fortes baisses parce qu'on voit que Renault continue de souffrir après ses pertes abyssales annoncées hier. Encore moins 4,5%. Les résultats de Legrand sont mal accueillis aussi, moins 4,1%, et on repart à la baisse sur l'aéronautique avec Safran en particulier qui abandonne 2,3%. Plus forte baisse du SRD, c'est Lagardère qui chute de 11,62%. Lagardère qui perd 500 millions d'euros au premier semestre et dont l'enseigne relais, les kiosques dans les gares, les aéroports, a particulièrement souffert du confinement et a beaucoup de mal à redémarrer. Un petit mot de l'euro-dollar, on est à 1,1817 en tout petit repli de 0,2%. Et puis l'or que l'on suit depuis des semaines et qui se rapproche de ses plus hauts historiques, encore des plus haut historique. On a abattu un plus haut en séance à 1984 $ l'once et on est actuellement à 1969 $ l'once. Le Brent, lui, se reprend à 43,52 $.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Comment les small caps traversent-elles la crise du coronavirus? On a plutôt tendance à parler des gros résultats, bien entendu, gros résultats du CAC, mais les capitalisations plus modestes, elles aussi, bien entendu, publient en ce moment, celles qui sont cotées. On en parle tout de suite avec Cécile Aboulian. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, spécialiste donc des small caps. Bon, pleine saison des résultats. Est-ce que le plus gros des résultats est passé pour les small caps ou est-ce qu'on est...
Des chiffres d'affaires, oui.
Voilà. Alors, justement, un petit bilan. Comment est-ce qu'elle aussi, j'imagine, souffre du coronavirus, bien entendu, mais j'imagine qu'il y a des différences entre les secteurs.
Absolument. Alors, pour le S1, ce qu'attend le marché en général, c'est moins 50% des résultats. Alors que pour les larges, c'est moins 12%. Donc, ils sont impactés
directement. D'accord, ah oui.
Voilà. Néanmoins, ce sont des choses qui avaient été un peu anticipées, attendues par les marchés. Donc, les réactions ne sont pas forcément très extrêmes. Dans cette saison de publication, il y a aussi des bonnes nouvelles, des surprises. À la hausse, par exemple, Whitby, aujourd'hui, qui a publié son chiffre d'affaires S1, qui est en hausse de 26%. Un éditeur de logiciels. Il y a eu Sword aussi, qui a réussi à faire de la croissance organique, qui est une entreprise de services numériques et qui a annoncé la cession de sa partie française. Donc, on a l'impression, à l'issue de cette salve de publication, que les entreprises, lorsqu'elles avaient un peu moins d'activité, notamment pour les entreprises de services numériques, numérique pour les entreprises d'édition de logiciels. Lorsqu'elles avaient un peu moins d'activité, elles mettaient leurs équipes sur de nouveaux projets, sur de nouveaux logiciels pour préparer l'après. Donc ça, c'est un des éléments qui ressort. Et un autre élément qui ressort éventuellement, c'est l'accélération du mouvement de la digitalisation avec des sociétés qui étaient plutôt retail physiques comme Inelec ou Big Ben, qui ont pris conscience qu'il fallait accélérer les ventes sur le digital et qui investissent un petit peu plus sur le digital. Il y a aussi un autre élément, c'est que les sociétés qui sont particulièrement exposées à tel ou tel secteur, on pense à l'événementiel, on pense à l'aéronautique, ont pris conscience d'accélérer leur diversification également du portefeuille client. Donc après les publications de ce S1, on se dit qu'on a atteint un point bas en termes opérationnels, que les sociétés ne sont pas très à l'aise avec le S2. Elles anticipent toujours une hausse en séquentiel de leur chiffre d'affaires, de leur activité. ISO contexte si rien ne se passe d'alarmant sur le second semestre, mais ce qui fait que ce manque de visibilité sur la situation sanitaire en fait fait que les sociétés guident un petit peu moins, on a un peu moins de perspectives,
se projettent moins
et donnent moins de perspectives chiffrées sur les atterrissages 2020.
C'est un peu général, hein.
Voilà, elles
rares sont les sociétés qui publient et qui peuvent s'avancer justement sur la fin de l'année où on en est pleine en tout cas. Mais on retrouve un petit peu la tendance générale au niveau des secteurs, c'est la technologie qui ressort gagnante.
Mmh. Ouais. Ce qu'on peut noter au niveau des small caps en général, il y a trois secteurs qui ont porté la croissance depuis le rebond de mi-mars. Juste à noter entre parenthèses que depuis mi-mars, les small caps surperforment de 6 points les large caps.
D'accord.
Donc elles sont un peu plus dynamiques. Alors on peut le mettre en perspective.
Même si on était plus inquiète sur leurs résultats, elles surperforment.
Après, elles sont, voilà, exactement, elles sont, il y a peut-être un effet rattrapage, hein, depuis deux ans, elles sous-performent un peu. Et puis, elles sont exposées à des secteurs, un peu la technologie, et puis aussi à la biotechnologie, les small caps regroupent beaucoup de sociétés qui se sont investies, qui ont la capacité, des biotech, qui ont la capacité de développer des traitements, des tests,
et oui, forcément, des vaccins. Tout le monde parle d'un traitement et d'un vaccin. Hein.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, il y a des valeurs Covid aux
immunothérapeutiques. Ah oui, on peut en citer certaines?
Aux immunothérapeutiques, par exemple. Et puis, il y a des valeurs qui ont bénéficié de cette hausse des biotech. Inventiva, par exemple, qui est, elle, une biotech spécialisée sur le traitement de la NASH et qui s'est cotée sur le Nasdaq. Mais c'est l'ensemble des biotech qui a bien bénéficié de cet engouement. Il y a les éditeurs de logiciels, eux, qui bénéficient d'un business model qui est récurrent. Il y a eu Axway Software, par exemple, qui a fait plus de 60% depuis le début de l'année, ou Generix. Et le dernier secteur qui marche bien dans les small caps, c'est l'énergie, notamment avec McPhy Energy qui fait près de 400% de croissance. McPhy Energy est spécialisé dans le stockage de l'hydrogène.
Donc la thématique aussi à la mode dans le cadre de la transition énergétique. Hein. C'est souvent cité, l'hydrogène, notamment pour les trains, paraît-il. Enfin, les transports en tout cas. Vous nous avez parlé de deux valeurs assez rapidement. On va revenir dessus. Sword et Whitby. On commence avec Sword, qui est peut-être un peu plus connu que la deuxième.
Oui.
Pourquoi c'est intéressant, Sword?
Sword, c'est intéressant parce que c'est
les services informatiques. Hein.
Les services informatiques, qui est donc diversifié géographiquement, ce qui porte sa croissance sur le S1. C'est son activité au UK, notamment. Elle a une petite activité sur l'événementiel en Belgique, mais qui est compensée par la croissance organique sur d'autres secteurs. Elle est orientée sur des secteurs qui fonctionnent bien, comme la gestion du risque et de la compliance, comme la télémédecine aussi. Ils ont toute une partie de leur activité sur la santé. Et ils ont publié une opération, l'intention de céder la partie française de leur activité, ce qui voudrait dire peut-être un peu plus de dynamisme selon les premières informations que nous ont données le management.
En termes boursiers, si vous nous regardez à la télévision, on va revoir l'action Sord pour voir ce que ça donne. 31 €, décrochage bien entendu très net à la mi-mars. On n'a pas tout à fait retrouvé les niveaux d'avant coronavirus, mais le ressort, en tout cas le potentiel, est intact pour vous sur une valeur comme ça.
Oui, pour moi,
c'est un plus haut historique là, 37. 37 € au 27 janvier dernier.
C'est un plus haut historique et on pense que peut l'atteindre à nouveau compte tenu compte tenu des perspectives de croissance, et puis aussi c'est une société qui a du cash,
oui.
Qui redistribue aux actionnaires, voilà, qui
sous
a souvent
forme,
de dividendes.
Ah oui, dividendes, d'accord. Les technologiques n'ont pas des dividendes très élevés en général.
Alors pour ce segment de la cote, les services numériques sont des sociétés qui distribuent de temps en temps tout coup ce soir la possibilité de le faire.
Ok, pour ce soir, on passe à Whitby.
Oui.
Whitby, alors là on passe au logiciel. Quel type de logiciel exactement?
Alors ils sont spécialisés dans la transmission de données pour être sûr que toutes les images qu'on reçoit, toutes les vidéos qu'on reçoit ou les fichiers sont de très bonne qualité. Et ils ont notamment une partie de leur client qui est sur le segment des télécoms, et c'est ce qui a drivé la croissance sur le S1 compte tenu de toute l'utilisation en fait des télécoms qu'on a fait lors du confinement. Donc elle a été portée
les visionnages
par
de vidéos et j'en passe.
Voilà, ouais. Exactement. Donc elle est vraiment centrée sur ce secteur-là. Donc c'est la raison pour laquelle elle réagit bien aujourd'hui, elle publie de bons résultats qui étaient supérieurs aux attentes.
Boursièrement parlant, on va de nouveau commenter Whitby donc. 3,78 €, c'est l'introduction, là, juillet 2019. Ça a été introduit il y a peu de temps ou c'est plus ancien que ça? Juillet 2016 plutôt. C'était monté jusqu'à 11 €, 3,78 €, alors moins 48,5% sur tout l'historique de Whitby. Et on voit que ça s'est bien repris là par rapport au creux Covid, pourrait-on dire. On est même plus haut que par rapport à mars, semble-t-il.
Voilà. Alors, c'est une société qui a dû investir, comme les sociétés d'édition de logiciels, et qui commence à récolter les fruits de ses investissements. Donc, c'est un bon point intéressant d'entrée pour la valeur.
Et ça peut aller à combien, là? On est à 3,78 €.
Ah, ça peut prendre 1 €, selon nous, à peu près.
1 €, d'accord, par rapport à un cours de 3,78 €. Il y a la thématique des OPA aussi, dans les small caps, qui anime la cote.
Oui, absolument.
Vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est particulièrement actif en ce moment, dans un contexte où on manque un petit peu de visibilité, où les valorisations sont pour les small un peu au-dessus de leur normatif sur le long terme. On voit qu'il y a beaucoup d'offres, il y a 14 offres annonces d'offres sur les sociétés cotées sur le mois de juillet, sachant qu'en 2019 il y en avait eu 16 en tout. Donc c'est un mouvement qui s'accélère. Alors on peut se dire qu'avec le confinement tout a été reporté, que ce sont des choses qui auraient dû se faire et qui se sont faites, mais ce qui est à noter quand même, c'est que ces opérations se font autour de 40% initiées par des fonds, et ça c'est plus que ce qu'on voit généralement, parce que les OPA peuvent être initiés soit par des fonds, soit par des sociétés. Et là, on se rend compte que les fonds de private equity trouvent beaucoup d'intérêt aux sociétés qui sont cotées. Alors on peut se dire, oui, ils ont beaucoup d'argent, mais le fait est qu'en bourse, les sociétés ne sont peut-être pas aussi chères que dans le non-coté. Donc on trouve des sociétés qui font de la croissance, qui ont de l'argent, qui intéressent les fonds de private equity dans lesquels investir. Aujourd'hui, il y en a eu deux annonces. Il y a Amplitude Chirurgical par PI Partners et Anevia par Atem. Donc,
Amplitude Chirurgical, c'est quoi?
C'est une medtech.
Une medtech, hein.
Voilà. Et Anevia est spécialisée sur également la transmission de flux vidéo dans les télécoms.
D'accord.
Et pour les entreprises.
Voilà. Allez-y, poursuivez. Et ça, c'est pour être retiré de la cote, c'est ça ou...
Alors, ouais. Majoritairement, ces opérations sont initiées pour finalement retirer les sociétés de la cote. Et ceci d'autant plus que...
C'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. Pour l'attractivité de ce segment de valeur, les small caps. S'il y en a de moins en moins et qu'il n'y a plus vraiment d'introduction en bourse, j'imagine que les introductions en bourse, c'est au point mort, là.
Ah bah, il y en a une récemment qui s'appelle Énergie, qui est une petite société
dans
l'édition logicielle sur l'énergie. Ça reprend un peu, il y aura peut-être encore des...
Donc la cote reste riche.
La cote reste riche, mais vous avez raison, on parle d'appauvrissement de la cote parce qu'il y a effectivement plus de sorties que d'entrées. C'est un vrai sujet. Il faut se rappeler la loi Pacte de fin 2019 qui avait été faite pour fluidifier justement et rendre plus facile l'introduction en bourse en rendant plus facile les sorties pour les fonds d'equity.
Dans les deux sens, alors.
Voilà, mais en réalité, là, pour le moment, on voit que les sorties se font un peu plus facilement parce que, juste pour rappel, la loi Pacte, c'est fixer le seuil d'acquisition des actions à 90% de l'ensemble de la société au lieu de 95%. Donc c'est plus facile d'acquérir 90%
un
et de la sortir.
Facile.
Un petit peu plus facile.
Un petit peu plus facile. Pour conclure, que diriez-vous?
Dans ce cadre-là, ce qui reste intéressant quand même sur les small, c'est qu'il y a des valeurs spéculatives sur lesquelles il y aura peut-être des offres. Et il y a des valeurs sur lesquelles il y a un petit peu d'inefficience de marché parce que sur les small, il y a peut-être des choses qui sont moins visibles. Et puis sur les large aussi, c'est-à-dire que pour moi, il reste encore des opportunités en fait, même si effectivement, il n'y a pas beaucoup de visibilité qu'il faut investir plutôt sur du long terme. Il y a quand même des sociétés aujourd'hui qui ne sont pas valorisées à une juste valeur.
C'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel de progression. D'une façon générale, le compartiment des small caps n'est pas si cher que ça. Vous avez parlé de rattrapage récent par rapport aux large caps. En termes de valorisation, ça reste intéressant.
Alors, en termes de valorisation, ils se payent environ 8,5 fois leur EBE, 17 fois leur PE. Et ça, c'est un petit peu au-dessus de leur valeur long terme. Mais on n'est pas du tout sur des excès. Voilà. Effectivement, il y a des sociétés qui se payent vraiment bien. Parce qu'il y a beaucoup de visibilité, parce que ce sont des biotech, parce que elles sont sur un créneau spécifique. Et puis il y a des sociétés qui sont peut-être un peu moins connues, sur lesquelles il y a des potentiels et du potentiel, et sur lesquelles il reste des opportunités. Je sais pas, je pense à ReWorld par exemple, qui est un groupe média. Je pense à Big Ben. Je pense à Streamwide, qui est un éditeur de logiciels aussi dans la messagerie, qui est peut-être un peu moins connu. Voilà, ce sont des petites sociétés moins connues. Voilà, c'est pour ça que les small caps ont un intérêt, c'est qu'on peut encore détecter des petites pépites.
Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup, Cécile Aboulian, d'avoir été avec nous, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. On quitte l'univers des small caps et on va parler allocation d'actifs à présent avec Marie de Lessac qui est en ligne avec nous. Bonjour Marie, gérante allocataire chez Edram. Marie de Lessac.
Bonjour Vincent.
L'actualité des marchés dominés par les publications de résultats en Europe comme aux États-Unis, très attendu, il y avait ceux des GAFA, bien entendu, qui ont dépassé toutes les attentes. La semaine a été riche aussi sur le plan macroéconomique, hein, avec les publications de PIB, catastrophiques comme on s'y attendait. Et on va voir les implications de tout cela en termes de stratégie d'investissement avec vous, d'allocation d'actifs, Marie. On commence avec les GAFA, non seulement pas touchées par la crise, mais elles en profitent en plus.
Ah oui, alors c'était effectivement très très attendu hier. Hein. En fait, il faut voir que ça contribue à L4, les quatre GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Elles contribuent à plus d'un tiers du rebond du Nasdaq depuis les points bas du mois de mars, donc ce rebond de 54%. Donc c'est important, elles représentent 16% du SP500 et elles représentent plus d'un tiers du Nasdaq. Hein. Donc c'est des titres qui sont largement détenus par le marché, un point important dans la société, donc évidemment c'était attendu. En plus, à ces niveaux de performance du Nasdaq, même si la performance du Nasdaq s'était un peu stabilisée depuis quelques jours, voilà, il y avait peu de place à la déception en fait pour ces entreprises. Et donc finalement, ça a été un soulagement pour le marché de voir que ces quatre compagnies ont réussi à publier des résultats meilleurs qu'attendus. Hein. Apple, ils ont publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, avec des bonnes ventes. Donc malgré en plus la fermeture de pas mal de leurs boutiques, un chiffre d'affaires de 59,7 milliards de dollars alors que le consensus était à 52 milliards. Les chiffres de Facebook, pareil, sont aussi ressortis au-dessus du consensus avec un chiffre d'affaires là de 18,7 milliards de dollars contre 17 attendus. Google, pour le coup, c'est un peu plus en ligne avec les attentes, hein, un peu de plus de difficultés, hein, notamment sur la baisse des revenus sur les publicités. Sur cette période-là. Et puis Amazon, pour le coup, aux résultats trimestriels qui sont multipliés par deux par rapport au même trimestre de l'année dernière. Hein. Donc vraiment des publications plutôt rassurantes pour les investisseurs pour ces quatre entreprises. On voit sur l'ouverture qu'elles sont en hausse pour les trois qui ont le plus surpris. En revanche, pour Google, donc la maison mère Alphabet, là pour le coup, c'est le titre est un peu en baisse. Mais on voit vraiment que finalement, il n'y avait pas de place pour la déception sur ces boîtes.
Bon, en tout cas, les GAFA, oui, les GAFA, c'est l'exception qui confirme la règle dans cette saison de résultats, vous diriez?
En fait, globalement, cette saison de résultats, en fait, elle est très bonne en relatif. C'est-à-dire comparé à ce qui était attendu. On a pas mal de surprises positives qui finalement corroborent tout ce qu'on avait eu comme surprises positives sur les chiffres économiques depuis la mi-mai et l'anticipation de la réouverture des économies. Mm-hmm. Donc ce côté-là est plutôt positif. C'est vrai que c'était une grosse semaine de publication en Europe et aux États-Unis. Maintenant, on a plus de la moitié des entreprises qui ont sorti leurs résultats. Ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, on a à peu près 85% de surprises positives, alors qu'on était à 65% le trimestre dernier. En Europe, on est au-dessus de 60%. C'est toujours inférieur, hein, donc ça, c'est normal. Mais c'est supérieur à la moyenne de long terme, qui est autour de 55%. Et l'ampleur des surprises est importante aussi, puisque en général, on bat les attentes de 10 à 20%. Mais c'est là où il ne faut pas forcément s'y tromper. En fait, ça c'est possible parce que les estimations étaient vraiment très très faibles. Elles avaient été largement revues à la baisse. Globalement, avant la saison de publication, on s'attendait à des résultats en baisse de 40, voire plus de 50%, globalement. Donc c'est vrai que les attentes étaient très très faibles. Et malgré les surprises positives, en absolu, on a toujours des croissances qui sont largement négatives au global. Hein. Rares sont les entreprises qui voient leurs résultats croître par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. C'est surtout les valeurs cycliques et industrielles, évidemment, et financières qui pâtissent lourdement de l'arrêt de l'économie. C'est normal, les valeurs défensives, technologies s'en sortent mieux, effectivement, comme on l'a vu pour les GAFA hier.
Pour ce qui est de l'économie, bon, les PIB là, qui ont été publiés aujourd'hui aux quatre coins de l'Europe, tous plus catastrophiques les uns que les autres. Moins 13,8 au deuxième trimestre pour la France, moins 18,5 pour l'Espagne. Et on voit d'ailleurs que les pays les plus touchés par le coronavirus sont ceux qui affichent les taux de récession, de contraction de leur économie les plus forts. Bon, alors maintenant, on se concentre, ou plutôt on se projette sur le troisième trimestre. Mais vous diriez que les marchés quand même digèrent aussi aujourd'hui ces très mauvais chiffres, ils s'inquiètent pour la conjoncture, pour l'état de l'économie là dans les mois qui viennent.
Oui, alors ces chiffres effectivement c'est du passé, hein, puisque c'est ce qui est derrière nous, c'est le second trimestre, c'est le deuxième trimestre, mais je pense que c'est vrai que ça nous ramène un peu à la réalité de la situation. La baisse est d'une ampleur historique, hein, jamais vue, je pense qu'on se rend compte aussi de la difficulté du chemin qui reste à parcourir pour arriver à revenir à des niveaux, enfin, ne serait-ce que sur 2019, sur l'économie, ça va être plutôt fin 2021 ou 2022. Et donc voilà, ça a été aussi. On a eu la réunion de la Fed mercredi. C'est vrai que mercredi, au sortir de la réunion, les marchés ont plutôt, aux États-Unis, ont plutôt bien réagi parce que Monsieur Powell a un discours assez toujours accommodant, comme c'était attendu. Évidemment, il dit qu'il peut utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise, qu'il va continuer ses achats d'actifs. Au même montant que ce qu'il fait actuellement, mais ça c'est aussi parce que l'environnement économique est très faible et parce que ce virus qui circule toujours activement pose des réels risques. Et c'est vrai que le lendemain, quand on a eu les chiffres de croissance des PIB en Allemagne, aux États-Unis et ce matin en France en zone euro, ben finalement ça nous ramène à cette réalité là et ça nous fait dire qu'effectivement le chemin devant nous va pas forcément être très très facile.
Les meilleurs indicateurs, sont encore américains là justement pour essayer de voir un petit peu les dommages que continue de générer le coronavirus sur l'économie réelle. On a un marché de l'emploi qui continue de se dégrader. Hein. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage étaient encore importante hier, hein, on était à 1 million, plus d'1 400 000. On a aussi des discussions qui traînent au Congrès sur le nouveau plan d'aide aux États-Unis. Tout ça, ça pèse sur les perspectives économiques.
Oui, alors ces chiffres économiques, enfin notamment de l'emploi aux États-Unis, ça vient corroborer cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on a fait effectivement un rebond important. La suite, on a toujours le soutien des politiques budgétaires, des politiques monétaires, et ça restera. Et donc ça aide à soutenir l'évolution des actions aussi. Hein, la liquidité, elle est là sur les marchés. Hein. Mais l'environnement économique, bah, effectivement, on voit que ça commence à la progression et le rebond commence peut-être un petit peu moins fort, notamment avec le retour de mesures de confinement partiel ou de distanciation sociale qui pèse sur notamment la confiance des consommateurs. On a eu des chiffres de confiance des consommateurs aux États-Unis en début de semaine et la semaine dernière qui était un petit peu inférieure aux attentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on suit des indicateurs de reprise de la consommation aux États-Unis, bah ça stagne un petit peu depuis quelques semaines avec ce retour des mesures de distanciation sociale, voire de confinement, mais très localisé. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne s'attend à ce qu'on ait un confinement global. Le risque existe toujours, mais c'est vrai que les mesures vont être prises de façon plus localisée pour essayer d'éviter une propagation du virus.
Voilà pour le contexte. Compte tenu de tout cela, quelle allocation d'actifs, la place des actions, on reste quand même sur les actions, mais si oui, lesquelles ? Européennes, américaines ?
Depuis mi-juillet, nous on a une position qui est légèrement plus prudente sur les actions pour justement acter cette divergence entre les fondamentaux et la valorisation et le niveau des marchés qu'on a actuellement. En tactique, à plus court terme, on était plus prudent sur les États-Unis parce qu'on a une situation politique qui est peut-être un peu plus compliquée, avec notamment les négociations justement sur les nouvelles mesures de stimulus budgétaire, avec une situation sanitaire aussi, avec un regain du virus peut-être un peu plus marqué aux États-Unis, alors que en zone euro, on avait plutôt une amélioration politique avec l'acceptation, enfin l'accord sur le fonds de recovery fund en Europe et un peu moins de circulation du virus. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, le niveau, ça s'est pas passé comme ça et l'Europe sous-performe un peu ces derniers jours, principalement, probablement à cause du niveau de l'euro-dollar et cette forte hausse très rapide qu'on a eue de l'euro, ou plutôt cette forte baisse du dollar en quelques jours, est venue effectivement pénaliser les valeurs de la zone euro par rapport aux valeurs américaines.
On s'est un peu emballé sur l'Europe là après l'accord sur le plan de relance à 750 milliards d'euros, plan de relance européen. Et on allait trop vite sur l'euro. Donc avant même que l'euro ne touche les 1,20 contre le dollar, déjà ça freine l'Europe, ça freine les exportateurs européens.
Et alors, en fait, oui, ça va avoir un impact sur les entreprises, mais ça a aussi un impact, je dirais, de confiance en général. Et c'est ce qu'on voit, c'est que dans la première partie de la hausse de l'euro, c'est plutôt positif pour les marchés de la zone euro, parce qu'en général, ça acte justement une situation, un environnement un peu meilleur au niveau politique. Et dans ces cas-là, la hausse de l'euro est prise positivement. Après, suivant la force et la vigueur, parce que là, ça s'est passé quand même assez rapidement sur les derniers jours, et c'est plus une dégradation de l'environnement américain qu'une amélioration encore de l'environnement de la zone euro. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ça va plutôt pénaliser les performances de la zone euro.
Très bien, Marie de Lessac, merci beaucoup pour toutes ces explications. Gérante allocataire chez Edram. BFM Business bientôt, 16h. Dans un très court instant, une nouvelle heure d'Intégral Bourse alors que les marchés s'essoufflent. Hein. Le CAC 40, au moment où l'on se parle, ne gagne plus que 0,16%, 4860, mais c'est hésitant depuis le début de la séance. Il y a des annonces de résultats qui sont porteuses pour le marché, mais on s'inquiète quand même pour la conjoncture. À la lumière justement de ces PIB en forte contraction qui sont publiés aux quatre coins de l'Europe, notamment en France. Et puis on voit aussi que le marché américain commence à être très mitigé. On est en baisse maintenant sur le Dow Jones, -0,08, alors que le Nasdaq s'adjuge 0,93%.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.